Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip, le podcast dans lequel j'explique comment je fais ma thèse sur la relation de confiance entre les professionnels de santé et les patients et comment je la finance grâce à mon business de formation sur le sujet de ma thèse et tous les sujets qui sont liés au partenariat patient, éducation thérapeutique du patient, confiance entre les professionnels de santé et les patients, mais aussi la confiance envers le système de santé, les hôpitaux, etc. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le podcast, je vous laisse écouter l'épisode 000. Et pour les autres, nous allons commencer. Alors pour commencer, on va directement dire la note générale de la semaine qui est un 8 sur 10. Alors c'est un 8 sur 10 dans la réalisation des objectifs, mais bizarrement par rapport au ressenti, c'est un peut-être 3 sur 10, on en reparlera peut-être dans le développement personnel, mais ça y est, je crois que je suis au bout de ma boucle de fatigue et de stress. J'ai eu un gros relâchement cette semaine parce que j'ai une très bonne nouvelle, mais bizarrement j'ai du mal à la digérer, je pense que ça fait beaucoup d'un coup. Je pense que des vacances vont s'imposer très prochainement et peut-être marquer la fin d'une saison, à voir. Alors comme depuis la semaine dernière, j'avoue que là c'est un petit peu une routine qui n'est pas du tout habituelle, routine dans le sens où beaucoup de choses se dirigent vers l'entreprise, un petit peu moins sur la thèse, et en plus sur la thèse c'est plus des projets qui prennent plusieurs semaines, donc j'avoue que j'ai pas tant de choses que ça à raconter sur la thèse. Ce sera sûrement un épisode court, mais voilà, c'est intéressant de se dire que je viens peut-être au bout de cette saison, et du coup il y a peut-être des éléments, une nouvelle recette à proposer pour la saison prochaine, parce que voilà, j'ai un petit peu peur de me répéter, j'ai un petit peu peur de simplement dire ce que j'ai fait dans la semaine sans apporter beaucoup de contenu, donc je me répète justement, si l'épisode doit être plus court, j'essaierai au moins de dire ce qui m'intéresse de vous transmettre. Donc on va commencer tout de suite par la première rubrique, qui est la rubrique thèse. Alors concernant la thèse, j'avais deux objectifs généraux qui sont en fait avancer sur mes deux nouveaux articles. Le premier article qui a été soumis il y a plusieurs semaines n'a toujours pas été relu ni accepté ou même refusé. J'avoue que ça commence à m'inquiéter. Je sais que les temps d'acceptation peuvent être très longs, parfois plusieurs mois. Et d'ailleurs, c'est une critique qu'on peut faire au monde de la recherche, c'est que parfois, ils mettent plusieurs mois pour finir par refuser l'article. Donc là, je suis en attente potentiellement de commentaires, mais ça se trouve, les commentaires viendront à dire « bah nous n'acceptons pas l'article dans le journal ». Donc c'est assez difficile à vivre. Je pense que je vais relancer, mais voilà, c'est pas quelque chose qui est facile d'attendre quand on a fini un produit et que on veut avoir des retours. Donc premier article en attente et les deux autres articles, l'article numéro 2 dans lequel j'écris la version finale et je crée une mesure de la confiance. Le but était de faire une première version finale et donc en fait de repasser, j'ai refait une lecture complète de l'article. Alors ça m'a pris globalement 4 à 5 heures. C'est peut-être lent, déjà je lis pas très vite, mais en plus c'est en anglais et en plus là c'est une lecture active dans laquelle je réfléchis ce que je veux transmettre, l'organisation, je vérifie les stats et voilà, ouais, ça m'a mis quasiment une journée, j'avais un autre rendez-vous dans la journée, donc ça plus un rendez-vous, ça m'a pris toute une journée de juste le relire intégralement une fois. C'est un article qui fait 55 pages pour l'instant. Et malheureusement, j'ai pas grand-chose à dire. Je l'ai relu, il y a des phrases qui m'allaient pas, il y a de la logique qui m'allait plus ou moins. Là, on est un petit peu sur le plateau où je sais ce que je veux transmettre, je suis satisfait de ce que je veux transmettre dans cet article. Du coup, la semaine prochaine, on va aller vers une version que je peux soumettre, parce que ce que j'appelle la version finale, c'est que je suis d'accord sur la forme. Le fond, justement, je suis d'accord sur le fond. Et une version à soumettre, c'est maintenant je veux voir la forme, donc appliquer toutes les règles de nomenclature usuelles par rapport à la police, la taille d'écriture, certains trucs qui doivent être en italique, le titre doit être au-dessus, en dessous, vérifier bien que je donne les bonnes informations dans les titres, des graphiques, je veux dire, graphiques et tableaux. gérer aussi la traduction des graphiques et tableaux, peut-être en refaire manuellement s'il y en a qui sont pas propres ou qui disent pas, qui montrent pas assez facilement les stats. Donc voilà, pour moi j'ai fini le fond. Maintenant il va falloir que je finisse la forme. Donc ça va être la semaine prochaine. En tout cas, je vais faire ce que je peux parce que c'est un article que j'aimerais faire relire à mon encadrante de thèse. Et dans ce cas, ça pourrait reprendre plusieurs semaines avant de le soumettre. Mais voilà, j'aimerais passer. Donc là, j'ai la version finale de fond et j'aimerais passer à une version que je peux soumettre. Comme ça, même s'il y a une relecture, après, je peux soumettre dans la journée, sachant que là, il reste encore quelques tâches pour que ce soit propre. C'est des choses qui sont rébarbatives. Et qui peuvent prendre du temps. Et en fait, voilà, c'est de la mise en forme globalement, mais de la mise en forme sur 50 pages en appliquant des règles, et bah, ça peut très vite prendre un jour ou deux. Donc, c'est pas sûr que je finisse la semaine prochaine, mais on se le met en objectif. J'avoue que j'ai un petit peu du mal sur les objectifs par semaine en ce moment parce que je vous le dirai dans la rubrique d'après, mais des fois j'ai des choses où j'aimerais mettre toute une semaine. Dessus pour finir et j'ai des choses qui se finissent pas forcément en une semaine donc voilà par rapport au podcast des fois je suis mal à l'aise de me dire il faut que j'avance, il faut que je finisse voilà pour l'instant on met ça j'ai du mal à faire du 10 sur 10 en ce moment pour ces raisons-là parce que bah il y a des choses c'est compliqué de dire on avance à tel point mais j'ai pas non plus envie de dire pas d'objectif thèse cette semaine. Peut-être qu'il faut apprendre à le faire, peut-être que des fois il faut apprendre à se dire là c'est il faut que je sois un peu full-time sur la thèse et d'autres fois un peu full-time sur l'entreprise. C'est un petit peu ce que je ressens d'ailleurs, le besoin d'être un petit peu à 100%. Peut-être que je vais faire une semaine à fond entreprise, une semaine à fond thèse, parce que voilà, des fois il faut vraiment avoir la tête dedans pour. Il manque deux, trois salves d'énergie pour finir un article ou deux, trois salves d'énergie pour finir un diapo ou finir une présentation pour le côté business. Et ça me manque un petit peu là de pouvoir me dire je me mets une semaine ou même deux, trois jours à fond. Le multitâche, c'est intéressant, mais je trouve que c'est dur de mobiliser son énergie à 100% pour finir quelque chose et que en fait le besoin de clôture. Qui est un besoin fondamental en psychologie, bah, je pense qu'il est. Je suis en train de passer par ce besoin et il y a beaucoup de choses qui se font, mais voilà, j'ai envie de finir quoi. J'ai envie de finir mes articles, j'ai envie de finir mes offres de formation. Et à chaque fois, on passe de 80 à 85%, 90%, 95%, mais j'aimerais bien pouvoir finir. Je pense que ça me ferait du bien. Donc, je vais réfléchir aux objectifs de la semaine. Là, je suis un petit peu la tête dans le guidon. Et on va continuer à se dire, et bah on va avancer sur la version forme de cet article numéro 2. Mais concrètement, voilà, je n'exclus pas la possibilité que pendant la semaine, je me dise non, on va finir les objectifs entreprise et on ne touchera pas à la thèse, ce qui me fera avoir une moins bonne note. Ce sera à moi de l'assumer sur LinkedIn. Mais voilà mes réflexions sur le sujet et sur la thèse. Et donc, il y avait un autre article, l'article numéro 3, où je sélectionne des mesures de la confiance dans la littérature et j'en fais une analyse qualitative et quantitative, enfin, voilà, une scoping review pour ceux qui connaissent. Ça se rapproche d'une méta-analyse qualitative. Et ben voilà, j'ai pas travaillé dessus cette semaine. Il me reste pas beaucoup d'énergie, encore une fois, pour finir les données, mais beaucoup de choses se sont passées du côté entreprise. Et j'ai préféré, quand j'avais du temps pour la thèse, j'ai préféré l'utiliser pour l'article numéro 2, parce qu'on est sur un article que je suis à deux doigts de pouvoir soumettre, où c'est la fin. Donc voilà, j'ai choisi de finaliser. Le sujet sur lequel j'avais le plus d'avancement. Et donc on se remet les mêmes objectifs que la semaine dernière et même je crois la semaine passée. Et bah, il faut avancer sur ces deux autres articles, hein. L'objectif c'est de les finir. Donc l'article numéro 2, on va faire une version finale mais par rapport à la forme, en tout cas avancer. Peut-être que je m'autorise à m'attribuer des demi-points du coup quand je dis finir et que c'est pas possible. Si j'ai fait un bel effort, si j'ai bien avancé, je peux faire des demi-points parce que, comme je l'ai dit, on est sur des choses qui des fois se font pas en une semaine, ou là, si je risque de décider dans la semaine de faire relire cet article-là à une nouvelle personne, voilà, si mon objectif c'est de soumettre, et ben, en fait, il ne sera pas soumis, mais je peux déjà bien avancer sur la forme pour qu'il soit plus facilement soumis. Donc voilà, avancer sur la forme finale, soumissible, je ne sais pas ce qui se dit, mais que ce soit rapidement disponible à la soumission après ce travail de la semaine qui vient. Et le deuxième objectif niveau thèse, eh ben, c'est de finir les données de l'article numéro 3. Autrement dit, en fait, bah, je continue les objectifs des semaines dernières, avancer, finir les articles. L'article que je peux soumettre, eh ben, finir quasiment intégralement. Et l'article où j'ai pas encore commencé sérieusement l'écriture, j'ai déjà un brouillon, mais de par mes dernières analyses et mes dernières décisions, je pense que ça prendrait une autre forme. Et il faut finir les données. Donc voilà, je suis par exemple, je crois que je l'ai dit la semaine dernière, je suis intéressé par la méthode de réduction de dimensionnalité, par le nombre de natures du concept. Donc quand on dit que la confiance est une émotion, il y en a qui disent que c'est une émotion, qui disent que c'est une intention, un comportement, une croyance, etc. Donc j'appelle ça des natures, c'est la nature du construit dont on parle. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant, mais et même obligatoire de connaître la nature du construit dont on parle. Donc, parce que si on dit que la confiance est un sentiment, ça se mesure, s'utilise, se prédit d'une totale autre manière que si on dit que c'est un comportement. Et je trouve qu'il y a un trou dans la littérature sur ce sujet. Donc voilà, je veux voir comment les gens qui créent des mesures de la confiance définissent la nature du construit. Et voilà, par exemple, je suis aussi intéressé par le nombre d'auteurs qui sont utilisés pour définir la confiance, pour ensuite voir ceux qui sont le plus utilisés dans la définition, pour dire aux personnes qui s'intéressent à la littérature, bah voilà les personnes qui sont le plus citées pour définir la confiance, ce qui peut apporter un éclairci et peut-être aller vers un consensus de fait, même si les gens disent qu'il n'y a pas de consensus, peut-être que moi je peux dire, bah, de fait, cette définition est la plus répandue. Alors peut-être qu'il y a des phénomènes de mode et que la plus répandue n'est pas la plus pertinente, mais c'est en tout cas intéressant et ça pose un argument de dire, bah, celle-ci c'est la plus utilisée, est-ce qu'elle est discutable ou non? Mais en tout cas, c'est celle qui semble faire consensus de par son utilisation, ou alors ses auteurs sont les plus utilisés. Voilà, c'est des petites choses qui m'intéressent et qu'il faut rajouter, ça ne met pas beaucoup de temps. Mais en fait, l'accumulation de choses qui ne mettent pas beaucoup de temps, et surtout des imprévus vis-à-vis de l'entreprise, des rendez-vous et des déplacements, et bah des fois c'est compliqué de mobiliser le temps. Mais voilà, on se leur donne comme objectif pour la semaine prochaine. Au-delà des objectifs de la thèse, il y a quelque chose dont je voudrais vous partager. En fait, je fais des formations en ce moment sur le monde de la recherche, parce qu'il y en a qui sont obligatoires quand on débute une thèse. Et bon, moi j'ai la chance, bah, en fait, de m'être intéressé depuis très longtemps à la recherche et puis d'avoir eu 2 ans avant mon inscription pour répondre à des questions. Mais j'ai eu une formation cette semaine qui m'a remis un sujet en tête que je trouve important à transmettre. C'est le sujet des revues prédatrices. Alors, quand je dis revues, je vous remets dans le contexte, c'est toujours revues, journaux, etc. Ce sont des journaux qui publient les articles scientifiques. Et en fait, il y en a certains qu'on appelle des revues prédatrices qui profitent du flou du domaine pour faire payer un peu plus cher la publication d'articles. Et en fait, ce sont des revues un petit peu autoproclamées qui ne correspondent pas à des critères éthiques de bon fonctionnement, et qui profitent en fait du système pour se faire un petit peu d'argent, qui ont des critères beaucoup plus simples pour publier. Et en fait, les auteurs et chercheurs ont tout à gagner, si du point de vue des revues prédatrices, hein, ils ont tout à gagner parce que c'est des revues qui publient beaucoup plus et qui ont des critères d'acceptation beaucoup moins stricts. Et du coup, et bah, les auteurs, ils publient, ils sont contents parce que le but, c'est de publier toute la renommée et tous les recrutements qui sont liés à la recherche et liés au nombre et à l'importance des publications. Et donc, voilà, des revues ont peu de scrupules à baisser les niveaux d'exigence, à faire payer un peu plus pour s'enrichir et profiter de la volonté des auteurs de pouvoir publier facilement. Et donc, c'est important, autant pour les chercheurs que pour les lecteurs, d'avoir connaissance de ces revues prédatrices et connaissance aussi du niveau des journaux, en fait. Donc, il y a des journaux qui sont plus ou moins bien reconnus et qui sont associés à des meilleurs critères de sélection, ce qui met en avant qu'un article scientifique, ça n'a pas la même valeur. Enfin, deux articles scientifiques n'ont pas la même valeur, dépendant de la revue dont ils viennent. Alors, c'est très compliqué parce qu'il y a aussi des revues qui sont un petit peu grises, c'est-à-dire que c'est pas totalement de l'arnaque. Il y en a qui sont vraiment de l'arnaque, hein, qui vont limite à pas publier ou qui font signer un contrat comme quoi la publication est gratuite, mais après on doit soi-même acheter son article. Enfin, voilà, il y en a qui sont de l'arnaque et il y en a qui profitent un petit peu du système, qui à force ont un petit peu élargi leurs critères de sélection, qui font relire, parce que le principe c'est que quand on met un article, il soit relu par un expert du domaine. Bah voilà, ils élargissent un peu les experts du domaine où il y a peu de critères de sélection. Par exemple, moi j'ai déjà eu des mails pour répondre à des sujets d'articles. J'ai juste cliqué sur bah voilà, je suis connaisseur de ce sujet et il n'y a eu aucune vérification et on m'envoie des articles. Je peux aujourd'hui, et même en fait, le problème c'est que vous aussi, vous pouvez très bien lire un article scientifique en tant qu'expert, selon les journaux. Et ça, c'est un gros problème. Et il y en a qui sont très connus, des journaux qui sont très connus, qui ont des processus, voilà, un petit peu discutables. Et donc, c'est assez important pour les chercheurs, pour pas décrédibiliser leur recherche, et aussi pour les lecteurs, soit du grand public, soit de la recherche, pour savoir bah, la qualité, en fait, de l'article qu'ils lisent, de savoir voir et identifier les revues prédatrices. Et pour ce faire, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des sites qui référencient, mais c'est assez compliqué. Et il y a surtout en fait des sites qui permettent d'avoir une évaluation globale. Donc, je trouve que c'est assez intéressant à savoir quand on s'intéresse à la recherche. Et donc, je vous mettrai en lien dans la description deux sites assez intéressants qui mettent en avant des critères et des questions à se poser pour juger de la fiabilité d'une revue. Voilà, c'est quelque chose que je voulais vous transmettre. Je pense qu'il faut faire attention à tout ça parce qu'on peut vite se faire avoir et en fait, ça définit clairement la qualité des recherches qu'on lit. Voilà pour ce qui est de la partie thèse. On va maintenant pouvoir passer à la partie entreprise. Alors, pour l'entreprise, j'ai plus de choses à dire parce que cette semaine était une semaine chargée, notamment les 3 premiers jours de la semaine. En fait, c'est plutôt sur jeudi, vendredi que j'ai pu travailler sur la thèse, etc. Et encore. Mais les premiers jours de la semaine, en fait, j'ai finalisé une offre pour laquelle j'ai signé un contrat. Donc, ça y est, j'ai signé mon premier gros contrat lié à une formation sur la confiance. J'ai énormément de choses à dire, à vrai dire, mais je suis partagé sur la confidentialité du contrat. Donc, je vais commencer par là. Le contrat est confidentiel. J'ai signé une clause de confidentialité qui veut même dire que je ne dois pas parler des clauses du contrat pendant 2 ans après, enfin jusqu'à 2 ans après même résiliation du contrat. Moi qui voulais être très ouvert sur ce que je gagnais, sur mon chiffre d'affaires, etc. Je vais continuer d'appliquer la règle que j'ai dit dans les premiers épisodes, qui est d'attendre d'avoir plusieurs clients et de faire tourner plusieurs personnes pour éviter en fait de nuire à mes contrats et mes partenariats commerciaux. Parce que si je dis le prix les termes du contrat de la formation qui me relie à un organisme de formation, ça, bah, c'est de fait, vu que je l'ai signé, un petit peu hors la loi, surtout que là je le dis publiquement. Donc voilà, je dirai pas mes chiffres tout de suite. J'en suis le premier déçu parce que voilà, mon principe c'est d'incarner la transparence qui est important pour la confiance. Donc essayer d'incarner mon sujet quand même sur la confiance. Mais je pense qu'il y a d'autres choses qui sont importantes pour la confiance, c'est de respecter la confidentialité et même dans le soin et pour les professionnels de santé. Donc je vais pas. Je ne veux pas trancher ma transparence pour ma confidentialité. Donc voilà, pour ce qui est des termes du contrat, des sommes envisagées, etc., je resterai muet. Lors de cette semaine aussi, par rapport à l'entreprise, j'ai eu un rendez-vous avec une personne, un chercheur français, qui fait une théorie que j'adore, reliée à la compétence. J'ai eu rendez-vous avec lui. Et le but, c'était de lui demander s'il était d'accord de faire des formations, des offres de coaching, et donc avoir une utilisation commerciale de sa théorie. Et ce chercheur a dit oui. Alors, c'est un rendez-vous super intéressant, super satisfaisant, parce que c'était un petit peu le maître et l'élève, quoi. Moi, c'est une théorie que j'adore. Cette personne, il m'avait déjà vu en cours, mais bon, comme beaucoup d'étudiants, je pense qu'il ne se souvenait pas de moi. Et c'est lui qui m'a enseigné sa théorie, et je la trouve fascinante, en fait. Je trouve que c'est une des théories les plus fascinantes et les plus parlantes de la psychologie, en tout cas de celle que je connais. Mais je trouve que c'est une théorie assez fondamentale sur qu'est-ce que la compétence. Et j'ai envie de faire des formations dessus, que ce soit du point de vue santé, où on pourrait voir l'éducation thérapeutique du patient comme la transmission d'une compétence de soins, et du coup utiliser sa compréhension de la compétence pour se dire qu'un patient, quand il se soigne, c'est une compétence qu'il doit apprendre. Et parmi justement toute la spécification de ce qu'est une compétence grâce à son modèle, on pourrait largement améliorer l'observance thérapeutique des patients et donc en fait la manière dont les patients se soignent en se disant que c'est une compétence et qu'ils peuvent apprendre comment vivre avec la maladie et vivre avec le soin également. Et ma deuxième idée, c'était d'utiliser ce modèle pour les psychologues, notamment les psychologues du travail, parce que c'est ceux que je connais le mieux, vu que je suis psychologue du travail de formation. J'ai l'impression qu'il y a un énorme trou dans la raquette sur la manière d'appliquer les connaissances en pratique. Je trouve qu'il y a beaucoup de psychologues du travail à qui on dit, bon, c'est bon, maintenant tu es sorti de la fac, maintenant c'est la pratique, c'est le terrain, il va falloir maintenant agir différemment, oublier ce qu'on t'a appris. Et beaucoup d'autres qui essayent d'employer des théories, mais le lien est très flou et qui finissent par se dire que la fac leur a appris une manière de penser un petit peu implicite qu'ils espèrent mettre en avant en pratique. Et moi, je trouve que c'est dommage parce qu'on nous a appris 3 à 5 ans des théories et qu'après, en fait, la pratique nous force à nous dire, bon, bah voilà, j'ai appris des méthodes de pensée qui me font agir en tant que psychologue ou alors c'est la posture qui me définit en tant que psychologue. Je trouve ça très réducteur. Alors, désolé pour mes auditeurs qui sont pas psychologues ou qui ne font pas d'études en psychologie, mais voilà. C'est un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup et dans tous les cas, en fait, c'est un sujet de personnes, de professionnels de santé et même de personnes qui ont une difficulté d'appliquer la théorie à la pratique, et ben en fait le modèle de la compétence explique un petit peu, enfin il faut savoir le détourner, mais il explique la manière dont les connaissances de base théoriques peuvent être amenées à la pratique pour avoir de bonnes prises de décision et de bonnes actions. Et j'en ai parlé autour de moi et moi je le sais que ça m'a construit en tant que psychologue. C'est quelque chose qui peut être super intéressant et voilà, j'aimerais beaucoup soit faire du coaching parce que je trouve que ça se prête bien à du coaching, soit faire une formation sur ce thème-là, le thème de la compétence et j'ai la chance d'avoir l'accord du théoricien qui a fait son modèle. Alors, il a premièrement pas vraiment compris pourquoi je lui demandais ça parce que bah, pour lui, ses idées sont libres de droit. Ce qui est. Alors, je suis pas un grand connaisseur, mais comme vous le savez, je me suis intéressé au droit. Moi, par exemple, il y a un schéma qu'il a produit dans un article scientifique qui m'intéresse. Donc là, si je dois reproduire son schéma, et ben en fait, c'est l'éditeur qui a les droits de reproduction, etc. Donc limite, lui a cédé ses droits selon comment il a fait attention. Et ça se trouve, le fait d'utiliser ce schéma pour une production commerciale, c'est plutôt l'éditeur qui pourrait me taper dessus plutôt que lui. Lui, ses idées il a sa propriété intellectuelle, donc concrètement, je peux utiliser ses idées si je les cite. Et lui, c'était ça son point de vue, c'est que bah, ses idées, il les a transmises, il a la propriété intellectuelle, mais ça reste libre de droit. Mais voilà, moi, comme je voulais vraiment faire une utilisation commerciale de ses idées et de son modèle, et que voilà, la formation soit vraiment grandement basée sur son modèle, hein, que ce soit pas juste une petite citation à un moment d'une formation, je voulais lui demander. Il a apprécié la démarche et j'ai proposé une collaboration commerciale parce que moi le but c'est que je me fasse des sous dessus donc je vois pas pourquoi je l'aurais pas proposé. Ce qu'il a refusé et voilà je pense que je rentre dans un milieu, le milieu de la recherche, le milieu de la santé où il va y avoir des personnalités, des problématiques d'ego, etc. Mais sincèrement, il y a quand même quelque chose d'un petit peu pur dans ce milieu de la recherche qui est assez admirable, qui est que bah, on est quand même là pour apporter des connaissances. On veut, entre gros guillemets, changer le monde, mais pas changer le monde, c'est-à-dire on ne veut pas changer 100% du monde, mais on veut avoir un impact sur le monde. On veut se dire, bah, j'ai réfléchi à une thématique et je pense vraiment qu'on pourrait mieux la comprendre ou en la voyant de cette manière, on pourrait changer les choses. Enfin, le but, c'est quand même de changer les choses, d'impacter le monde. Et en fait, il a apprécié la démarche de dire bah, moi, j'aime beaucoup votre théorie. Je pense vraiment que ça peut être utile parce que moi, je ne fais pas les choses juste pour me faire de l'argent. Hein. Sinon, je ferais, je ne sais pas, du marketing ou des choses qui peuvent être dans mes cordes. Mais mon but, c'est de faire de l'argent avec quelque chose qui fait sens. Et voilà, il a compris la manière dont je voulais utiliser ces modèles et il m'a donné le feu vert. Donc, l'organisation, ça va être que je vais définir une offre. Coaching, formation, je ne sais pas encore. Faire un produit semi-final avec peut-être, même si, par exemple, si c'est du coaching, je ne suis pas obligé de tout écrire de A à Z, mais je vais faire un diapo et écrire tout de A à Z pour que lui puisse relire quand même comment j'utilise ces théories, me faire des commentaires, que ce soit sur le fond comme la forme, le scénario pédagogique, comment j'amène les idées, voilà, me faire des propositions. Et une fois qu'il y a une validation, voilà, je peux faire... entre gros guillemets, ce que je veux de ces théories. Et voilà, il est ouvert à un geste un jour si je me fais des millions sur ces théories. Mais c'est vraiment pas ça qui le drive et je trouve ça honorable. Alors, pour revenir dans le concret de la semaine, il y avait deux objectifs pour l'entreprise. L'un était de continuer de m'informer sur l'expérience patient. Je continue à le faire. Comme je dis, je suis passé au format conférence. Et ben là, j'ai écouté une petite conférence cette semaine d'une heure sur l'expérience patient, le recueil, le pourquoi, le comment. J'avoue qu'il y a beaucoup de redites. Je suis assez déçu malheureusement du thème de l'expérience patient parce que bah, je trouve qu'on dit beaucoup de choses qui ont de bon sens et qu'il n'y a pas énormément de théories, il n'y a pas énormément de choses pratiques. Donc c'est bien parce que moi, ça veut dire que je peux avoir des choses à dire et à ajouter. Mais voilà, je ne pense pas avoir fait le tour parce que je pense avoir fait le tour avec ma manière de consommer des informations et ce sujet-là précisément. Mais voilà, j'ai pas appris énormément de choses. J'ai appris une anecdote parce que bah, y a une personne qui a mis en avant son vécu pour une maladie. Donc c'était intéressant, ça peut donner des anecdotes. J'ai vu l'importance et moi, voilà, ce que j'ai appris de la conférence, c'est que... Il y a un sujet de l'expérience patient autour des maladies chroniques. On dit que c'est important pour les maladies chroniques. Et moi, je pense que l'expérience patient, c'est important pour n'importe quel patient. Même si on va à l'hôpital pour une grosse grippe, et bah, c'est intéressant de savoir les patients qui viennent à l'hôpital pour une grippe, qu'est-ce qu'ils ont vécu, est-ce qu'ils sont satisfaits, comment on peut améliorer. Peut-être pas pour la personne, mais pour les prochains. Enfin, je pense qu'on doit faire autant attention aux patients chroniques qu'aux patients aigus. Donc... voilà, ça m'a remis ça sur la table, une question que je m'étais déjà donnée, mais bah voilà, au moins ça me remet. Comme j'ai dit, ça m'aide aussi à rentrer dans un milieu, avoir des idées, comprendre comment le milieu communique, comprendre les acteurs. Et puis bah là, voilà, cette idée-là, ça va être un des postes de la semaine. Et puis voilà, donc je vais continuer. Ça me prend pas beaucoup de temps dans ma semaine, mais il faut que je continue un peu cette discipline de comprendre le milieu et les sujets. Sachant qu'il y a un sujet sur lequel je pense qu'il faut que j'aille et que je commence à me renseigner, c'est l'ETP, éducation thérapeutique du patient. Donc je sais ce que c'est globalement, mais je veux savoir ce que c'est, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe dans les formations sur le sujet, parce que encore une fois, je pense que je peux avoir une idée intéressante avec des armes de psycho, de psychologue et psychologie sociale pour améliorer l'éducation thérapeutique du patient, mais je veux savoir ce qu'ils se disent. En tout cas, c'est assez intéressant parce que je comprends que ma valeur... En fait, je suis super satisfait de ce qui se passe en ce moment par rapport au business, à l'entreprise. Je me rends compte que quand on est ouvert au marché, le marché nous parle. Alors, je vais essayer d'être plus clair que ça. Mais il y a des sujets où, bah, quand je parle de ma thèse, on me demande « Ah, est-ce que tu formes sur l'ETP ?» Ou je vois que l'ETP revient souvent, enfin... En fait, là, du coup, j'ai l'impression que le marché me mène à relier un petit peu ce que je sais, ce que je connais à l'ETP, à ce sujet. En fait, quand on parle à plein de gens, quand on écoute, justement, c'est ça qui est bien d'écouter plein de conférences et de s'imprégner du domaine. Et bah, on se dit, ah, mais en fait, eux, ils parlent beaucoup de ça, ça les intéresse. Ou quand ça fait deux clients qui nous disent, ah, est-ce que tu fais sur l'ETP? Et bah, on se dit, est-ce que je devrais pas aller sur l'ETP? Voilà, je suis content parce qu'en étant ouvert au marché, aux clients et aux gens qui font partie du domaine dans lequel on vend quelque chose, et ben en fait, c'est aussi eux qui peuvent nous dire ce qu'ils attendent. Et moi, c'est des pistes pour améliorer mes offres de formation. Moi, j'ai la chance d'avoir un sujet, la confiance, qui est à la fois pas très répandu, mais à la fois très pertinent et les gens ont envie d'en savoir plus. Donc, ça, c'est quand même mon offre précise. Mais il faut que je sois ouvert au marché qui peut un petit peu me souffler ce sur quoi je devrais me diriger. Et ce que je comprends de tout ça, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels je peux me positionner et ma réelle valeur, c'est de pas oublier que je suis psychologue et pas essayer d'aller dans le domaine et de me dire je vais faire de l'ETP comme tout le monde le fait, mais de rester avec mes connaissances, peut-être un angle confiance, un angle relationnel et surtout un angle psychologie du travail, psychologie sociale, et apporter ça au sujet que les gens connaissent. Et depuis que je commence à avoir compris ça, je me comporte mieux vis-à-vis de clients et j'ai beaucoup moins peur de dire ce sujet, l'ETP, je ne le connais pas comment vous le connaissez, mais je connais à ma manière. C'est-à-dire que je peux y apporter des connaissances en psycho qui sont intéressantes et qui peuvent apporter de nouvelles perspectives. Donc je comprends que ma valeur commence à être ma perspective et mes connaissances et que je perdrai beaucoup d'ailes, beaucoup d'énergie à essayer de faire ce qui a déjà été fait. De la manière dont ça a déjà été fait. Donc voilà, pour l'instant, ma stratégie, c'est de affirmer mes propositions autour de la confiance et m'ouvrir à d'autres sujets sans essayer de me dire je vais apprendre le sujet à leur manière pour, enfin à la manière de ceux qui sont experts dessus pour l'enseigner à des gens qui sont pas encore experts, mais comprendre et savoir ce qui est dit par les experts de ce sujet et moi devenir expert de mon propre angle sur ce sujet. Je pense que c'est ma manière d'avoir de la valeur. Et qu'il faut pas que j'oublie que je suis psychologue et que je continue à le mettre. D'ailleurs, il y a une formation que j'ai eue sur le brand thinking, donc le fait de réfléchir à sa marque, son image de marque, etc. Et il y a beaucoup de choses très intéressantes sur sa valeur, ce qu'on peut apporter, ce qu'on veut mettre en avant. Et j'aimerais bien avoir du temps pour mettre tout ça en place et pour avoir une logique. En fait, ça permet d'avoir une logique de prise de décision qui est alignée avec sa valeur, ce qu'on veut apporter. Et je pense que ça peut être très intéressant. Donc, je ne vais pas le mettre pour un objectif de la semaine, mais je vais plutôt le mettre. Donc, là, il y a des vacances qui vont arriver, pas cette semaine, mais sûrement celle d'après. Au retour de ces vacances, où je pense pour une saison 2, de réfléchir à mon image de marque et à me voir comme une marque et à mettre en avant une proposition de valeur et de caractéristiques qui me définissent en tant que marque pour m'aider à avoir une vision moyen et long terme plus claire. Je pense que c'est quelque chose de très utile que j'ai envie de mettre en place. Voilà pour ce qui est de mes réflexions autour de l'entreprise. J'avoue que je me suis lancé un petit peu dans cet épisode sans trop savoir quoi dire. En fait, je parle beaucoup à mes proches sur ces sujets-là et du coup, j'oublie ce que je dis ou ce que je dis pas dans le podcast et ce qui peut être intéressant. Et j'avoue que globalement, j'ai vraiment beaucoup la tête dans le guidon. Je suis à peine satisfait du gros contrat qui a été signé. Je sais pas pourquoi, je vis de la fatigue, je vis du stress. Je pense que des vacances sont quasiment obligatoires bientôt pour lever la tête, être satisfait de ce qui a été fait et pouvoir voir un petit peu plus loin que le bout de mon nez, dont la réflexion du brand thinking qui sera fait, je pense, pendant les vacances et la réflexion, pourquoi pas, de la fin d'une saison 2. J'ai envie d'apporter quelque chose de plus, de faire évoluer le contenu. Mais là, on est tête baissée parce que, en fait, de force par le contexte, hein, gros contrat a impliqué que je me mette un coup de boost pour finir ce qui est associé au contrat et le fait de ne pas être loin de pouvoir soumettre des articles, j'ai envie de me booster. Donc là, je suis en mode contrat, article, contrat, article. Mais voilà, il me faut une respiration, il faut que je regarde tout ça de haut pour voir où je vais. Et ce sera fait, pas encore cette semaine, mais voilà, le but, comme je le répète, finaliser les objectifs qui sont en cours et ensuite respirer. Et prendre du recul. J'en viens donc aux objectifs niveau entreprise pour la semaine prochaine. Alors, globalement, je suis à 90% d'avoir fini le diapo et la formation pour laquelle j'ai signé le contrat. Donc là, il faut que je me sente bien de pouvoir la dispenser dès demain. Donc il faut que je finalise. Alors je me rends compte quand même que finalement, quand on croit qu'on est à 90% pour vraiment avoir un produit fini, il y a encore du travail. Donc je ne me le cache pas. Peut-être que la semaine prochaine, les principaux objectifs seront de finir ce produit, parce que bah, ça y est, je l'ai vendu, maintenant il faut qu'il soit finalisé, que je sois prêt à le dispenser. Peut-être qu'encore une fois, la thèse sera mise un petit peu à l'écart, parce que là, c'est un très lourd enjeu financier, je me suis engagé, j'ai signé. Donc voilà, j'ai envie de bien avancer sur ce sujet-là. J'ai plein de sous-objectifs en fait, qui sont liés à la finalisation de cette formation, notamment des tests que j'aimerais faire avec des personnes. Je ne suis pas encore sûr de si je veux le faire, parce qu'en fait ça engage encore de l'organisation et qu'il y a peut-être d'autres choses à faire avant, dont la finalisation des scénarios pédagogiques, dormir dessus. Enfin, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux dire, mais en fait à force de dormir, j'aime bien dormir sur les sujets parce que le lendemain au réveil on a d'autres avis, mais voilà, faire mûrir les choses. J'ai la chance d'avoir du temps pour les faire mûrir, donc les faire mûrir, changer, organiser, tester. Et aussi, cette formation est assez interactive. Le but, c'est de le faire associer à un WooClap et de faire quelque chose d'assez voilà, prenant, parce que le but, c'est que ce soit des classes virtuelles. Et je n'ai pas envie de partir du principe que de croire que les gens seront tellement intéressés par le sujet ou ma manière de gérer qu'ils arriveront à être pendant 2 jours derrière moi qui parle et un diapo. Donc le but, c'est de le rendre, de gamifier un peu, de le rendre un peu interactif. Et du coup, voilà, il faut que je lisse un petit peu la manière de changer les scènes. Peut-être que je vais passer par OBS et faire quelque chose qui ressemble à du streaming pour pouvoir, boum, passer diapo ou clap, ma tête, faire des activités. Donc voilà, tout ça, ça met du temps à peaufiner, à régler. Le contenu, je sais ce que je veux dire, il y a encore quelques diapos à finaliser, mais voilà, il faut régler la machine et vraiment passer de 90 à 100% enfin sur ce sujet. J'ai aussi eu un rendez-vous la semaine dernière avec un incubateur à Reims qui m'aide justement à faire mon business et à faire du recul. Et le principal chose que j'ai compris de ce rendez-vous, c'est qu'il fallait en effet que je lève la tête et il faut que je leur fasse un retour sur mes prochains objectifs dans les 6 mois, etc. Donc voilà, il y a un gros moment, un besoin de prendre du recul. Et on va se donner pour objectif cette semaine de prendre, même si c'est une demi-heure, une heure, mais de se dire, bon, où j'en suis, qu'est-ce que je fais? Je sais que c'est quelque chose qui se fera naturellement quand je serai en vacances. Mais là, je commence à me dire que je l'ai tellement dit ces derniers temps et je vous l'ai déjà dit 3 fois dans le podcast, qu'on va s'obliger à le faire. Faire un gros point, donc faire ce retour à l'incubateur, imaginer ce qui peut se passer dans les 6 prochains mois. C'est compliqué parce que j'ai énormément d'incertitudes, et en ce moment c'est des incertitudes positives, mais si le contrat remplit les attentes que j'ai, je vais potentiellement pas chercher beaucoup plus de clients. Par contre, si le contrat fonctionne pas et qu'il me ramène une formation par an, il faut que j'adopte une nouvelle stratégie pour chercher des nouveaux clients. Donc c'est assez compliqué en fait d'être stratégique, parce que là je dois attendre, enfin pour savoir où on va il faut savoir d'où on vient, et là il n'y a pas encore d'état fixe sur lequel je peux me tenir pour pouvoir me projeter. Mais on va faire l'effort parce que voilà, j'ai envie de savoir ce que je peux faire dans une saison 2, j'ai envie de savoir ce que je peux faire dans 6 mois, quelles sont mes attentes vis-à-vis de cet incubateur quels sont mes prochains objectifs. Et poser cette idée de brand thinking, faire un premier travail en tout cas. Et je pense qu'il sera largement amélioré par une pause, parce qu'il faut que contextuellement je me détache de ce que je suis en train de faire. Mais allez, on va se forcer à avoir cet exercice de mise à l'écart, et puis ce sera intéressant pour peut-être marquer la fin d'une saison. Je pense que c'est une bonne idée. Voilà qui est dit, on va maintenant pouvoir passer à la dernière rubrique, la rubrique développement personnel. Pour ce qui est du développement personnel, les habitudes ont été faites, je ne vais pas le rappeler, plus de 90%, la déconnexion marche bien, je ne réfléchis plus vraiment à aller sur LinkedIn, aller sur mes mails. Donc voilà, on dit que les habitudes prennent 3 semaines à être installées, et voilà, ça y est, je me sens déconnecté de LinkedIn, déconnecté de mes mails, en tout cas il n'y a plus de stress. J'y vais 2 à 3 fois par jour, mais il n'y a plus de problème. C'est un petit peu lié à du contexte, c'est qu'on est en retour de vacances et j'ai arrêté de lancer les clients, donc forcément j'ai moins de mails. Mais je pense que c'était aussi une habitude comportementale que j'ai enlevée et ça y est. Maintenant, c'est en fait quand je m'assois devant mon PC après une longue pause, donc soit après, soit le matin, première connexion, ou après en début d'après-midi, et ben mon premier réflexe c'est mail, LinkedIn et ensuite on passe aux tâches. Donc voilà, c'est assez routinier maintenant et en fait la plupart des choses sont ancrées. Donc ça se passe bien, ça se trouve, ça va être la fin de ces notations. J'aimerais bien savoir justement, sans les notations et sans le mettre en objectif, si j'arrive à tenir ces habitudes. Ce serait positif parce que ce serait l'objectif et au moins il y aurait un petit peu moins de redondance dans cette rubrique pour le podcast. J'avais 2 autres objectifs niveau développement personnel. L'un, c'était d'avoir un jour off, aussi simple que ça puisse paraître. Ça a été fait, on est dimanche, hier c'était samedi, j'ai globalement rien fait. Alors rien fait pour moi, c'est jouer aux jeux vidéo, regarder YouTube, faire des siestes et voilà, jouer aux démineurs en ce moment, mais plutôt jouer et surtout me laisser aller à ce que j'ai envie de faire sur le moment. J'ai fait un petit peu de musique, mais surtout ne pas me forcer, parce que ce qui est compliqué ces derniers temps, c'est que même le positif et même quelque chose qui devrait être une passion, le sport, la musique, bah en fait c'est une ligne sur mon agenda. Et en fait il manque vraiment les moments totalement libres, quoi, parce que même si j'aime faire de la musique et me pousser à faire de la musique, faire du sport et me pousser à faire du sport, il y a toujours une notion de se pousser, d'avoir quelque chose à faire. Et voilà, jour off qui m'a fait du bien. Il faut que je réfléchisse, et pareil, je pense que c'est un besoin de vacances aussi, parce que souvent je fais des vacances au bon moment, c'est que je suis au bout d'un cycle, au bout d'un processus, et il faut changer, et je sais plus trop comment voir, donc voilà, il va falloir que je me trouve une semaine ou deux de vacances prochainement, pour essayer de revoir tout ça aussi, réfléchir à un fonctionnement avec au moins un jour off, parce que je me disais, oui, le samedi, je peux bien travailler 2 heures, puis le dimanche aussi 2 heures, ce qui fait que j'ai quand même une après-midi. Mais en fait, non, parce que ça veut dire qu'on se lève pour faire quelque chose, on se force à faire quelque chose, on a quelque chose en tête, on ne déconnecte pas totalement. Et puis, en fait, à juste une petite tâche de 2 heures, bah, en fait, souvent, s'ajoutent d'autres choses de la vie qui fait que ça bouffe facilement le week-end. Donc, je pense qu'au moins une journée off, c'est quelque chose que je devrais tenir. Malheureusement, en ce moment, j'ai l'impression que je ne peux pas. Je veux bien considérer que c'est une croyance et que c'est une impression. Mais en tout cas, je la maintiens. J'ai l'impression d'avoir beaucoup d'objectifs. Et que voilà, il faut que je finisse ces objectifs, que je fasse une pause, que j'en mette de nouveaux et que j'ai une organisation un peu plus saine. Parce que bah voilà, je fais des tests. Comme j'ai dit, mon but, c'est d'être toujours à 80-90% de productif et de travailler beaucoup, mais pas trop. Je pense qu'on est un petit peu sur le trop, donc voilà, va falloir revoir tout ça. Et enfin, dernier objectif de développement personnel, ne pas boire d'alcool cette semaine. Ça a toujours été fait. J'ai pas grand chose à dire de plus que la semaine dernière sur ce sujet, à part que bah, je ressens l'envie de boire. C'est plutôt psychologique, c'est pas physique. J'ai déjà fumé, j'ai arrêté de fumer il y a plusieurs années, donc c'est largement moins pire qu'arrêter de fumer. Ça me donne envie de moins boire dans ma vie courante, mais là voilà, je suis plutôt sur le plateau. De toute façon, on est à peu près à la moitié de l'objectif d'un mois. Ça m'apporte pas beaucoup plus, c'est pas beaucoup plus compliqué qu'au début. Voilà, j'attends limite le droit de boire. Et j'en ai parlé à un ami, je pense que le vrai objectif, ça va être après l'objectif, parce que c'est facile de se dire pendant un mois, voilà, même socialement, le principe c'est que ce soit. Ce qui est le plus dur à dire, c'est non socialement, donc voilà, mais c'est facile à vendre socialement de dire non, je me donne un objectif, pas boire pendant un mois, ça fait cool, ok, j'essaye des trucs. Par contre, le vrai principe, c'est de savoir dire non dans des moments où j'ai pas envie, où c'est pas nécessaire, où je pense que ça m'apportera pas grand chose. Et quand ça devient une vraie habitude qui, bah, ça te fait passer pour un élément de ta personnalité, hein, je bois pas ou je bois moins. Quand c'est pas un objectif fixé, que tu dis pas ouais, je me suis donné pour objectif un mois, je pense que la vraie bataille sera après des 1 mois, pour pas juste reprendre comme avant, mais essayer de reprendre avec des nouvelles habitudes. Donc le sevrage chimique, on va dire, il est fait largement. Maintenant, il va falloir apprendre à dire non dans des moments sociaux et sans raison qui peut paraître valable pour les gens, juste de savoir dire bah non, j'ai pas très envie de boire, et pas j'ai pas très envie de boire parce que t'as vu, je suis stylé, je fais un objectif, etc. Donc voilà, on va continuer parce qu'on s'est dit un mois, on va continuer un mois, mais j'ai l'impression que j'ai déjà appris ce que je devais apprendre sur le sujet et que je vais surtout apprendre à la fin de l'objectif. Voilà pour ce qui est du développement personnel. J'ai continué la lecture, comme je dis, voilà, bizarrement, lecture audio, et bah ça me permet de pouvoir lire plus facilement, donc j'ai plus de choses à raconter. Peut-être que j'apprends moins, mais en tout cas, je le fais plus. Donc je continue le livre La semaine de 4 heures, qui est très intéressant. Ça fait du bien de le relire plusieurs années après ma première lecture. Je me rends compte que je me suis un petit peu formé selon ce livre sans le vouloir et qu'il y a des choses que je lis avec une autre profondeur. Je comprends les choses de la même manière, mais je les comprends mieux ou c'est plus de choses que j'ai vécues ou que je me suis dit ou des croyances que j'ai vraiment enrichies où je me dis mais oui, c'est vraiment ça qui, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Et donc je voulais apporter deux petits sujets aujourd'hui sur le développement personnel. Et j'aimerais bien avoir cet angle-là, justement, relire un peu plus de développement personnel et au lieu de parler de mes habitudes, etc. Peut-être j'aimerais bien partager en fait quels éléments de mon mindset me permettent de tenir et me permettent d'avoir l'énergie de continuer et de croire que je vais réussir. Bah déjà, il y a le fait de croire qu'on va réussir. Mais je voulais parler aujourd'hui de la notion de risque. Beaucoup de gens disent que je suis courageux de financer ma thèse, etc. Et moi, je pense qu'en fait, il y a un calcul du risque qui est biaisé. Beaucoup de gens disent que ce que je fais est risqué. Mais je pense que le risque, c'est quelque chose qu'il faut mettre à plat. Et en fait, quand on se dit qu'est-ce que j'ai réellement à perdre, et ça, c'est un petit peu dit dans le livre, et bah, finalement, c'est pas gravissime. Enfin, je veux dire, moi, au pire, je rate ma thèse. J'aurais quand même, et j'ai déjà appris énormément de compétences, de connaissances, j'ai déjà fait du réseau. Rater ma thèse, bah en fait, c'est même pas totalement vrai parce qu'il faudrait que j'abandonne. Donc ça vient une autre croyance. Si on n'abandonne pas, on rate pas. Rater ma thèse, ce serait abandonner. Là, rater ma thèse, dans le sens que les gens me le disaient, c'était bah, pas avoir assez d'argent et devoir travailler et puis faire sa thèse en 6 ans. Mais en fait, par exemple, enfin, en fait, je me rends compte que c'est vraiment le risque, c'est une manière de voir les choses. Par exemple, sur ce sujet-là, je pourrais parler pendant 2 heures hein, du risque et en quoi ma situation est plus ou moins risquée. Mais j'aimerais juste prendre des exemples pour vous expliquer à quel point c'est vraiment une différence de point de vue. Et j'espère ne pas faire mon coach en développement personnel basique, mais en tout cas, je dis des choses que je traverse vraiment. Et donc l'argument de me dire, voilà, je risque de rater ma thèse, eh ben, déjà si j'abandonne pas, j'ai pas raté ma thèse. Et si rater ma thèse, ça veut dire la faire en 6 ans plutôt qu'en 3 ans, eh ben, imaginons qu'on arrête de se dire, je suis en train de faire quelque chose, mais ma vie, c'est ça. C'est-à-dire arrêter de chercher la finalité de je fais une thèse et je vais juste baisser la tête pour finir la thèse, mais de me dire, est-ce qu'aujourd'hui, ça me plaît? En fait, moi, j'ai toujours voulu faire de la recherche. Et je suis passé d'un état d'esprit à me dire je ferai de la recherche après ma thèse, à me dire en fait je fais déjà de la recherche. Donc faire ma thèse en 6 ans, même en 10 ans, si je me lève le matin, que j'aime bien ce que je fais, que j'arrive à faire de l'argent à côté, et bah est-ce que c'est déjà pas une finalité en soi de faire une activité qu'on aime bien? Parce que, comme j'ai dit, je peux partir longtemps sur ce débat. Si vous avez des arguments pour lesquels j'aurais pas dû faire ça, allez-y. Normalement, je suis passé par tous et j'ai beaucoup débattu avec mes proches et j'ai formé en tout cas un système de croyances qui me permet de faire face à tous ces arguments et pour lesquels je me donne raison en tout cas. Mais l'argument, c'est de se dire, dans la recherche, dans tous les cas, on attend quelque chose. Enfin, après que j'aurai ma thèse, j'attendrai un poste de post-doctorant ou d'ATER. Et après, j'attendrai le poste de maître de conférence, ensuite de habilité à diriger des recherches, ensuite de professeur. Et en fait, si on attend toujours la finalité, on ne se rend pas compte qu'on est en train de faire les choses. Et donc, moi, par exemple, sur ce sujet du risque, voilà, argument 1. Oh là là, t'es courageux, il y avait beaucoup de risques. Quel risque que tu rates ta thèse? Et bah, en fait, il n'y a pas de notion de rater sa thèse parce que là, ce que je fais, ce que je sais, c'est que je suis en train de faire un business qui, je l'espère, va fonctionner. J'apprends des compétences, j'avance quand même sur ma thèse et je suis content des activités que je mène. Donc, j'ai gagné et la thèse n'est pas ratée tant que je ne l'ai pas finie. Et si ça me dérange pas de la finir en 6 ans parce que je suis content de ce que je fais au jour le jour, et bah voilà, il n'y a pas réellement de risque. Et donc voilà, je voulais, c'est un exemple parmi tant d'autres, j'espère que j'ai été clair, mais le risque c'est vraiment une question de point de vue, et quand on se questionne vraiment ce qu'on a à perdre et qu'on le met devant ce qu'on a à gagner, je trouve pas que le courage c'est de prendre des risques, mais le courage c'est plutôt de réévaluer les risques. Et voilà, ça fait partie d'un point mindset que je voulais mettre en avant. Je pense que voilà, j'aimerais bien essayer de moi-même déconstruire mon système de croyance qui fait que j'avance, et peut-être qu'on en verra des limites et qu'il faudra voir ce sur quoi travailler. Mais en fait, j'ai l'impression de plus me rapprocher de ce que je voulais faire dans une rubrique développement personnel, en décryptant, en ajoutant, mais aussi, il faut pas oublier que j'ai déjà fait du chemin, ne serait-ce que pour avoir le courage, mais prenez le sens que je viens de développer, de faire ce projet-là. Donc voilà, la notion du risque est à revoir et à mettre à plat avec ce qu'on a à gagner. Voilà, je vais finir sur un petit point que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, La semaine de 4 heures. C'est le fait que des objectifs réalistes sont plus compliqués que des objectifs irréalistes. J'ai adoré cette phrase, ça m'a beaucoup plu, et je trouve ça très sensé en fait de se dire que les objectifs réalistes, tout le monde en a. Ça veut dire que si on a comme objectif d'avoir une licence, on est en compétition avec toutes les personnes qui veulent avoir une licence. Bon, c'est un mauvais exemple parce qu'il n'y a pas réellement de compétition pour avoir la licence, vu que... Enfin, quoique, en fait, si on n'est pas bon, on passe pas, mais on est en compétition plutôt vis-à-vis de soi que vis-à-vis des autres. Mais par contre, quand on a un objectif irréaliste, c'est-à-dire moi, faire une thèse sur la confiance et la financer, on est face à personne d'autre. Et donc, la concurrence est moins rude quand les objectifs sont irréalistes. Alors, c'est peut-être une projection de l'esprit et quelque chose juste pour se satisfaire de ce qu'on fait, mais sincèrement, moi, ça me parle beaucoup comme comparaison, parce que je le vis en fait. Quand on a un objectif réaliste, qu'on veut juste un métier très répandu, on est en concurrence avec tout le monde. Par contre, moi, j'ai un objectif que beaucoup m'ont dit être irréaliste. Et qui est très spécifique et très précis, mais du coup, bah, quand je le mets en avant, et bah, je dis, moi, voilà, mon objectif, c'est de financer ma thèse sur la confiance, et bah, en fait, il y a tellement personne que dès qu'on me saisit une opportunité, j'ai le monopole sur le sujet, et je peux avoir de l'avance sur d'autres, parce que je suis rare sur ce thème-là. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, je vous laisse sur cette réflexion, peut-être que mon avis dessus changera, mais je la trouvais intéressante. Les objectifs en termes de développement personnel pour la semaine prochaine sont très simples, ce sont les mêmes, 90% des habitudes, ne pas boire d'alcool, et la lecture, j'ai enlevé la lecture du compte des habitudes parce qu'en fait mon but c'est de lire l'équivalent d'une heure, et donc voilà, c'est un peu ridicule d'appeler ça habitude, donc je l'ai remis en un point général. Voilà pour ce qui est des objectifs de la semaine et du rapport de la semaine. Ce qui me mène à conclure. La conclusion générale est de se dire haut les cœurs, de se dire on a la tête dans le guidon et je le sais et il va falloir que je lève la tête, donc on va tout faire pour se mettre un dernier coup de pied aux fesses et finir les objectifs pour se sentir bien d'aller en vacances. Et si c'est pas possible, aller en vacances aussi avant, parce que j'ai peur en fait que mon contrat me mène à être très occupé, donc voilà, j'aimerais être stratégique sur mes vacances, prendre une pause pour avoir l'énergie d'assurer le contrat. On peut se féliciter de ce contrat-là et de l'avancement. Et voilà, maintenant c'est à moi de vous remercier de m'écouter. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn, n'hésitez pas à noter ce podcast à sa juste valeur, 5 étoiles. Et bah, je vous remercie encore une fois de m'écouter et je vous dis à la semaine prochaine.